2 mai 2024. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h.
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, c'est gros dégâts hein, après des orages qui ont balayé une partie du pays.
Près de 23 000 éclairs et impacts de foudre ont notamment touché Lyon avec des vignes détruites jusqu'à plus de 80%. Il avait promis un rendez-vous 3 semaines plus tard. C'est finalement 2 mois plus tard qu'Emmanuel Macron reçoit ce matin les syndicats agricoles. La Russie accusée d'avoir utilisé un produit chimique pour déloger des soldats ukrainiens. Et puis le football. Après la défaite de Paris 1-0 à Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions, Marseille espère la victoire. L'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame en Ligue Europe. Match à vivre sur RTL et M6.
À 84 jours des Jeux Olympiques, nous vous dirons tout sur l'histoire des Jeux de l'Antiquité grecque au Baron Pierre de Coubertin. C'est une formidable bande dessinée qui nous est proposée par le dessinateur Tommy et le spécialiste des relations internationales Pascal Boniface. À mettre entre toutes les mains, rendez-vous à 8h20.
RTL Matin.
La vigilance orange a désormais disparu après cette traînée d'orages qui a balayé la Picardie, la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne dans la soirée. L'heure est maintenant au constat des dégâts, notamment dans les cultures déjà frappées par le gel il y a 10 jours. Écoutez, Daniel Etienne, il a perdu la quasi-totalité de ses vignes à Chablis.
C'est une catastrophe. Vous voyez ce que c'est qu'une balle de pétanque? Vous voyez ce que c'est qu'un cochonnet? Bon, ben, il y a eu des grêlons entre le cochonnet et la balle de pétanque. Les vignes, on vient de faire un tour à la lumière des phares. Le cœur du Chablis historique, moi, je l'estime à 60% détruit. Mes voisins qui étaient à côté de moi me disent « Non, Daniel, t'es optimiste, c'est plutôt 85%. » Bon, la récolte, elle est foutue pour cette année, mais on va avoir perdu aussi les bois de taille, donc les bois pour l'année prochaine. Donc oui, on va perdre plus qu'une année, quoi. Voilà.
85% de vignes perdues. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Au-delà de Lyon, c'est une grosse partie nord du pays qui a été frappée par la foudre.
Oui, 22 996 impacts de foudre recensés depuis hier. Après Lyon, la ligne orageuse est remontée vers le nord. La Seine-et-Marne d'abord avec ses images des rues de Croissy-Beaubourg recouvertes de plusieurs centimètres de grêlons. Puis les difficultés ont touché le nord de Paris, Tremblay en France par exemple, où des témoins racontent les rues se sont transformées en torrents.
Les inondations suite à l'orage, regardez devant chez moi, l'eau qui défile, l'eau des champs.
Un peu plus loin, l'aéroport de Roissy va se paralyser peu après 22h. Interdiction de s'y poser. Les avions sont alors déroutés vers Bruxelles. Pour ceux déjà présents sur le tarmac, voici ce que l'on entendait de l'intérieur de l'avion. Ce bruit, c'est celui de la grêle. Le terminal 2 de l'aéroport a fini inondé. Ce matin, l'inquiétude s'est déplacée vers le Calvados où les cours d'eau réagissent, en particulier la Touque, cours d'eau qui atteint des niveaux inédits depuis 25 ans. Donc prudence si vous circulez ce matin autour de Pont-l'Évêque ou de Trouville.
Valentin Boisset pour RTL. Merci Marina Giraudot, vous nous avez rejoint en studio. La vigilance orange est levée ce matin, ça veut dire que le plus gros est passé, ça y est?
Oui, les orages sont passés hein, hier soir, donc de la Bourgogne en allant vers la Picardie et la Normandie. Ils ont quitté la Normandie vers 3h du matin et maintenant ils sont à présent sur le sud de l'Angleterre, ces gros amas orageux. Il y a encore quelques impacts, mais rien à voir avec ce qu'on a eu hier soir. Il y a des impacts là en ce moment sur l'ouest de la Corse ainsi que sur les Vosges et la Meuse.
On suit tout ça donc avec vous Marina, merci.
Et c'est dans ce contexte que les syndicats agricoles ont rendez-vous avec Emmanuel Macron.
Oui, objectif, faire le point sur l'avancée des mesures censées enrayer la crise. Un point d'étape que le président avait annoncé au moment de l'inauguration chaotique du Salon de l'Agriculture. Il avait promis un rendez-vous 3 semaines plus tard. On est finalement 2 mois après. Alors qu'est-ce qui a permis d'enfin organiser la rencontre, Virginie Garin?
Eh bien, les syndicats voulaient du concret, commencer à voir vraiment dans les fermes les premiers effets des 67 mesures promises par le gouvernement depuis février. Et ce qui a permis de fixer enfin ce rendez-vous, ce sont les 14 supplémentaires annoncés vendredi dernier, avec enfin une solution pour le calcul de la retraite des agriculteurs, le début de l'examen de la loi qui aide les jeunes à s'installer, à simplifier les normes. Lundi, un plan sera annoncé pour assouplir l'usage des pesticides, 500 millions d'euros d'aide en commencé à être versés au bio, à l'élevage, à la viticulture et puis ont été rajoutés 50 millions spécialement pour les départements de Méditerranée pour les aider à s'adapter au réchauffement et changer leur agriculture. Donc il y a encore beaucoup de méfiance, mais pour les syndicats, les manifestations ont vraiment permis d'obtenir de quoi redonner un peu d'espoir aux agriculteurs. Il restera à l'automne la révision de la loi Egalim Egalim pour mieux protéger leurs revenus.
Virginie Garin, spécialiste agriculture de RTL.
L'avenir de notre agriculture, hein, l'un des grands thèmes de campagne des candidats aux européennes.
Et elle sera sans doute évoquée dimanche sur RTL. Hein. Un peu plus d'un mois du scrutin, RTL organise le tout premier débat des 7 têtes de liste dont le parti est déjà représenté au Parlement européen avec un grand jury spécial européenne, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, 7 têtes de liste pour un grand débat sur les antennes de RTL, Paris Première et de la chaîne parlementaire. Et pour la première fois, le président du RN, Jordan Bardella, souvent accusé par ses adversaires de se défiler, sera bel et bien présent dans nos studios. Pour le pousser dans ses retranchements, par ordre alphabétique, Manon Aubry de la France Insoumise, François-Xavier Bellamy de LR, Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, Valérie Ayer, Besoin d'Europe, macroniste, Marion Maréchal, Reconquête et Marie Toussaint, les écologistes. Le débat va s'articuler autour des 4 défis de l'Europe, sa sécurité, c'est-à-dire la défense européenne, sa transition écologique, stop ou encore, quelle solution pour ses frontières ? Et enfin, comment garantir sa souveraineté économique, ne pas perdre la guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis ? Bref, de quoi largement occuper les 2 heures que nous leur avons réservées.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, grand jury spécial européenne, donc dimanche de midi à 14h sur RTL et Paris Première et à 18h sur la chaîne parlementaire. Ils étaient 121 000 dans les cortèges du 1er mai hier selon le gouvernement, plus de 200 000 d'après la CGT, bien loin des près de 800 000 recensés l'an dernier au moment de la contestation contre la réforme des retraites. Aux Antilles, l'équipage d'un navire hors bord de Saint-Martin, toujours recherché ce matin. Il a fui le navire où 1,8 tonne de cocaïne a été saisie. De quoi remplir tout un camion de gendarmerie, valeur marchande d'une 40 millions d'euros.
La Russie a-t-elle utilisé des agents chimiques en Ukraine ?
Selon Washington, Moscou a utilisé ce produit pour déloger des soldats et reprendre du terrain. Les États-Unis annoncent dans le même temps une nouvelle liste de sanctions contre des entreprises ou des individus qui participerait à l'effort de guerre. Détail dans le journal de 7h30.
Le foot en Ligue des Champions, Paris a toujours son destin entre ses mains ce matin.
Mais devra impérativement gagner la semaine prochaine pour aller en finale. Le club s'est incliné 1-0 à Dortmund hier soir en demi-finale aller. Première fois de la saison qu'il ne marque aucun but dans un match de la compétition. Une défaite qui s'est jouée au milieu de la ferveur allemande, Philippe Sanfourche.
Oui, le mur jaune était un peu trop haut, un peu trop solide et un peu trop bruyant hier soir à Dortmund. Paris a globalement déçu, manquant de maîtrise et de précision. Plusieurs grosses occasions ratées quand les Allemands, eux, ont su trouver la faille une fois dans la défense emmenée par Marquinhos.
Je pense qu'on a pris un but aussi dans un détail qu'on avait travaillé. Il fallait pas le prendre un but comme ça, la profondeur. Et c'est des détails qui font une différence dans une demi-finale.
Détail et manque de personnalité au moment d'attaquer la rencontre. L'entraîneur Luis Enrique n'a pas su libérer totalement ses joueurs de la pression d'une demi-finale.
Vous savez, les joueurs ne sont ni des machines ni des robots. Oui, en première période, on a manqué d'identité dans cette atmosphère. On n'a pas été assez incisif offensivement.
Paris enregistre donc une 4e défaite cette saison en Ligue des Champions, mais reste en vie avec un seul but à remonter mardi prochain au Parc des Princes. Un but de retard, comme face à Barcelone en quart de finale. Au PSG, donc, d'emballer une nouvelle fois le match retour.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Ce soir, Marseille va tenter de s'avancer vers la finale de Ligue Europe. L'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame à 21h, sa 3e demi-finale européenne en 7 ans. Un match à suivre sur RTL, émission spéciale dès 20h, rencontre également diffusée sur M6.
Et puis les regards des visiteurs vont à nouveau se poser sur elle. La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix retrouve aujourd'hui sa salle d'exposition au Louvre.
L'œuvre qui représente une femme au sein nu brandissant le drapeau français sur une barricade a eu droit à une restauration, ce qui a permis cette découverte, Laurent Marsic. Le tableau avait au départ une toute autre couleur.
On connaissait cette liberté baignée dans du jaune. Mais à l'origine, raconte Laurence Mignot, une des deux restauratrices, il n'en était rien.
Les vernis jaunes dégradés forment comme un film photo. On a découvert plein de petites touches qui n'étaient pas visibles, des détails pathétiques, des coulures de sang, des choses comme ça. Comme le tableau était recouvert d'une couche jaune, on avait du mal à différencier quels étaient les vrais jaunes des jaunes qui étaient liés au vernis. Vous avez évidemment cette robe jaune. On voyait bien qu'il y avait un petit dégradé qui était plus jaune en bas et moins en dessous avant avec le vernis. Mais maintenant, on se rend compte qu'il a peint de façon sont très différentes. En fait, il a peint dans un premier temps grise et c'est seulement dans un second temps il est venu appliquer des touches jaunes assez vives. Ça fait comme des éclats de jaune.
Un tableau iconique pour nous, mais pas vraiment pour les contemporains de Delacroix, car le public, en découvrant cette liberté à l'époque, la compara à une prostituée, en sueur, musclée comme un homme. Pire, elle a des poils sous les bras. Ce tableau n'est entré au Louvre qu'en 1875, 45 ans après avoir été peint.
Laurent Marsic du service culture de RTL et sur RTL.fr, vous retrouvez un dossier complet sur cette restauration du tableau avec un avant-après en photo. C'est assez impressionnant, allez voir. Pour ça, vous tapez Louvre dans la barre de recherche après avoir cliqué sur la loupe sur RTL.fr.
On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Hortense.
Et le départ, c'est à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 9, l'As, le 7, le 15, le 13, le 16, le 10, l'outsider de RTL, le 15.
Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h10.
Et dans un tout petit instant, la récolte de Chablis ravagée par les orages de la nuit, on vous emmène sur place, les vignes, vous allez l'entendre, ont été complètement hachées par la grêle.
Alba Ventura, la guerre des gauches s'est encore illustrée hier.
Oui, Raphaël Glucksmann, le candidat PS Place Publique, a été chassé du défilé du 1er mai, c'est détestable.
A tout de suite.
RTL.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre », répondent « oh non, merci, là, je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là, c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange, en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont donc ces orages qui, on vous le disait, ont ravagé cette nuit une bonne partie de la récolte de Chablis et des grêlons gros comme des balles de ping-pong qui pendant plusieurs minutes hier soir se sont abattus sur les vignes de la région. Bonjour Margot Munoz.
Bonjour.
Et vous êtes sur place dans Lyon à Chablis justement pour RTL.
Oui, le jour commence à se lever sur Chablis et c'est difficile de distinguer la route ce matin. Les feuilles arrachées forment un tapis dans certaines rues. Les grêlons de la veille se sont transformés en plaques de glace. Dans les vignobles alentours, la grêle a laissé des traces. Certaines feuilles de vigne sont déchirées, d'autres sont au sol. Mais le plus inquiétant, c'est le nombre de raisins touchés. La plupart vont sécher avec le temps et finir par tomber. La récolte est forcément touchée.
Merci beaucoup Margot. À vos côtés, Sébastien Dovissa. Vous êtes viticulteur à Chablis. Vous avez 11 hectares de vignes. Pour nous donner une idée, ça représente 40 000 à 50 000 bouteilles de vin produites chaque année. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL.
Oui,
Sébastien Dovissa, vous êtes en train justement d'inspecter vos vignes. Quelle est l'ampleur des dégâts ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de vignes, du pourcentage de la part de vignes qui a été détruite ?
Bah alors justement, en faisant le tour, on se rend un peu mieux compte. Bon, il y a pas mal de feuilles qui sont déchirées. La croissance est de 6 à 15 cm, donc c'est complètement difficile de dire ce que ça va donner dans 2-3 jours. Mais surtout, le plus le plus vicieux dans ça, c'est que les raisins ont peut-être pris un pet de grêlons et ils vont sécher dans le temps, quoi. Et là, on a du mal d'estimer. Par contre, c'est l'ampleur du dégât sur le vignoble. C'est-à-dire que ça a pris tout le vignoble de Préhy à Ligny-le-Châtel, en passant par tous les grands crus, de pleine face.
On avait le témoignage dans le journal de 7h d'un autre viticulteur, Daniel Etienne, qui disait que lui, la récolte d'après lui était détruite à 60%. On va monter si haut?
On va monter plus haut sûrement. Certaines zones, je pense que si les vignes sont en pleine face avec le vent, les grêlons, ça, on va atteindre les 70-80. Mais surtout, c'est le dégât végétal qui va ensuite être engendré et puis les sarments qui peuvent commencer à dessécher et puis à tomber par terre, quoi.
Ça veut dire la récolte de cette année, mais les prochaines aussi.
Et les prochaines qui risquent d'être compromises, oui. C'est ça.
Vous nous disiez, il y a les feuilles qui ont été touchées, les grains de raisin aussi. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas forcément, c'est pas grave quand les feuilles sont touchées. En revanche, c'est le raisin, c'est ça le plus important.
Voilà, les feuilles, ça repousse, c'est pas de danger. Il y a pas, c'est visuel, quoi. Puis on n'a pas eu complètement de voir plus une seule feuille en arrivant sur les parcelles ce matin. Mais c'est surtout les raisins qui sont très petits. Et le fait est qu'ils soient très petits avec un grêlon d'un centimètre, c'est un rocher pour nous, quoi. C'est ça qui peut les esquinter.
70 à 80% de la récolte potentiellement touchée, c'est une catastrophe pour toute l'appellation.
Ben, l'appellation, la profession, les gens qui travaillent dans les vignes, ben, tout le monde sera impacté, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le temps. D'autant plus que là, on est en 2024, on a le stock 21 qui était quasiment à zéro. On a eu des moins 7 degrés dans les vignes en gelant par le gel, un gel de printemps, un gel de fin d'hiver. Donc le stock est déjà actuellement très bas. Donc la répercussion, elle va être encore plus grave dans la fin d'année, quoi.
Merci beaucoup Sébastien Douvissa votre témoignage.
Je vous en prie.
On vous souhaite bon courage et on a bien sûr une pensée pour tous les viticulteurs qui ce matin, comme vous, se réveillent un peu catastrophés. Marina Giraudot, la région avait été placée en alerte orange. Comment on explique la violence du phénomène? On nous parle de grêlons, parfois gros comme des boules de pétanque.
Exactement, les orages en fait ont été provoqués par un conflit entre une masse d'air chaud à l'est et une masse d'air froid, c'est-à-dire qui est arrivée de l'Atlantique. Et ils sont d'autant plus violents, donc avec des grêlons importants et de fortes pluies, lorsque la différence des températures est importante. Plus elle est grande, cette différence, plus les orages sont violents. Et hier, en Bourgogne, hier après-midi, il faisait entre 23 et 26 degrés, alors que sur la région à côté, en Centre-Val de Loire, on était à 13 degrés. Donc il y avait une différence de 10 degrés, d'où cette violence des orages.
Merci beaucoup Marina. On vous retrouve juste avant le journal de 7h30 pour le programme Météo du jour.
RTL 7h17.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Alba, ça ne s'arrange pas à gauche. Hier à Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann, qui est donc le candidat socialiste place publique, a été évincé de la manif du 1er mai par des militants d'extrême gauche. Il accuse les insoumis et d'ailleurs il a demandé à Jean-Luc Mélenchon de mettre un terme à ses attaques. Ça chauffe Alba ?
Non mais c'est assez incroyable de voir qu'un 1er mai, jour d'unité autour des travailleurs, il y a quand même des gens qui décident que vous n'avez rien à faire là et qui vous chassent. Donc oui, plus on avance dans cette campagne des européennes et plus ça chauffe. D'abord les insoumis ont toujours en travers de la gorge, vous savez Yves, la décision des socialistes d'avoir quitté la NUPES.
Oui.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, les patrons de la NUPES, dominateurs et sur deux, c'était les mélenchonistes. Mmh. Et depuis qu'ils sont en perte de vitesse, ils sont de plus en plus durs. Et Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas de voir Raphaël Glucksmann faire partie du tiercé de tête dans les sondages des européennes. On en parlait l'autre jour, il obtient des scores autour de 13%, tandis que les insoumis sont plombés par leur campagne palestinienne.
Pourtant, officiellement, Jean-Luc Mélenchon a déploré les incidents.
Oui, enfin, dans un tweet, vous savez, il déplore, et puis ensuite, dans un autre tweet, il accuse, donc il joue un coup au pompier pyromane, un coup au pyromane pompier. Fabien Roussel aussi a déploré d'ailleurs le leader du PCF, alors que parmi les militants qui ont chassé Raphaël Glucksmann, il y avait aussi des membres des jeunesses communistes.
Absolument.
Mais pas que.
Mmh.
Ce que l'on constate, c'est qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon, comme chez Fabien Roussel, une jeunesse qui est quand même plus radicale. Bon, parfois c'est pas seulement des jeunes d'ailleurs, mais ils sont plus durs, ils ne supportent pas l'idée que l'on puisse être social-démocrate, ils ne supportent même pas l'idée que l'on puisse être différent. Pour ces gens-là, soit on est aligné, soit on est d'extrême droite. droite. C'est-à-dire que l'extrême droite commence à leur droite, donc au PS, si vous voulez. Le rose n'est jamais assez rouge, et donc Glucksmann n'est pas assez de gauche. C'est le fameux constat que faisait Manuel Valls, hein, ces deux gauches irréconciliables, celle qui est prête à gouverner et celle qui veut le chaos, qui cherche en permanence le pourrissement.
Bon, à l'arrivée, tout ça crée un climat de campagne détestable.
Oui, et détestable dans tous les sens. Oui. Vous savez, même si je n'approuve pas du tout la campagne de Rima Hassan aux côtés des Insoumis, je trouve déplorable l'action de ceux qui ont interrompu son meeting. Ou bien quand des candidats reçoivent des messages ou des menaces de mort. Vous vous rendez compte que Raphaël Glucksmann reçoit des menaces de mort quotidiennement. C'est inacceptable. La politique, une campagne électorale, ça a toujours été violent à droite comme à gauche. Bon, on le sait, c'est un moment d'extrême tension. Mais avant, on se fâchait, et une fois qu'on avait dépouillé les bulletins et que le vote était passé, la vie reprenait son cours. Chacun retournait à ses occupations et chez les fans de politique, on préparait la prochaine échéance. Là, il y a un climat de haine permanent. On a franchi un seuil qui fait qu'on n'est plus dans une démocratie apaisée. Il y a une hystérisation du débat politique qui ne retombe jamais.
Un climat de haine permanent. Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h20.
Et dans un tout petit instant sur RTL, Laurent Deutsch est l'un des plus grands suicides collectifs de l'histoire. C'était un 2 mai, il y a près de 2000 ans. A tout de suite.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
M6. Exclusif en clair sur M6. Vivez la demi-finale aller de l'UEFA Europa League Olympique de Marseille Atalanta Bergame. L'objectif pour les Marseillais sera de remporter ce match à l'Orange Vélodrome et espérer ainsi se qualifier pour la finale lors du match retour. La demi-finale Olympique de Marseille Atalanta Bergame, commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, c'est ce soir à 20h50 sur M6.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Là, vous entendez? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Le Roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15 euros de remise immédiate tous les 150 euros d'achat, là vous vous dites, ok, y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans la longue et souvent tragique histoire du Proche-Orient, vous nous emmenez dans le désert de Judée, il y a presque 2000 ans.
Très exactement, le 2 mai de l'an 73 après Jésus-Christ, ce jour-là, les Romains arrivent à enfoncer les murailles de la forteresse de Massada, dernier point de la résistance juive. 8000 légionnaires avaient mené pendant des mois un siège difficile contre cette citadelle tenue par un millier de combattants.
Alors la géographie explique cette position longtemps invulnérable.
Ah bah oui, Massada est plantée sur un éperon rocheux qui domine un désert brûlé par le soleil. Les défenseurs juifs étaient certains que leur place forte était inexpugnable. En plus, ils avaient suffisamment de vivres. Grâce à des citernes creusées dans la falaise, ils avaient de l'eau en abondance pour cultiver la vigne, les oliviers, les dattes ou les céréales.
Et pourtant, Massada est tombée.
Oui, pour la conquérir, les Romains ont quand même dû construire un mur d'encerclement de 3 km. Et ensuite, ils ont creusé dans la roche une longue rampe d'accès pour acheminer devant les murailles une tour de siège contenant des catapultes. Et grâce à elle, les Romains ont pu faire une brèche et ont pu pénétrer dans la citadelle. Ils ont alors longer les maisons, traverser les jardins, mais il n'y avait aucun bruit. Pas âme qui vive, seulement le lourd silence des soirs de bataille. Et pour cause, pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, les défenseurs de Massada se sont tous suicidés. 960 cadavres qui jonchent les pavés de la citadelle. Seules deux femmes et cinq enfants ont survécu. Ils s'étaient cachés dans une citerne.
C'est donc grâce à ces quelques rescapés qu'on connaît précisément la fin de la forteresse de Masada ?
Oui ! Grâce à leurs témoignages, on y apprend que le commandant de la forteresse était clair sur le choix du suicide collectif. Écoutez-le, la liberté sera notre linceul. Mourons sans être esclaves de nos ennemis. Sortons libres de la vie. Hâtons-nous de laisser aux Romains un sentiment de stupeur devant notre mort et d'admiration devant notre courage.
Et c'était donc la fin de l'indépendance juive sur la terre même de l'épopée biblique.
Ouais, le grand temple avait été détruit 3 ans auparavant et Jérusalem avait été rasée. La ville sainte sera remplacée par une cité romaine nommée Aelia Capitolina et défense aux Juifs d'y pénétrer sous peine de mort. Même le pays va changer de nom. Les Romains l'ont appelé Palestine, c'est-à-dire le pays des Philistins, des étrangers, histoire de faire oublier l'ancien royaume d'Israël.
Bah, des bouleversements qui ont transformé la région et le monde.
Dans cette atmosphère de bouleversement, les Juifs devaient se réinventer. Les fidèles qui se savaient condamnés à un long exil se sont créés une patrie transportable en rédigeant le Talmud, c'est-à-dire l'ensemble des lois et des commentaires d'un judaïsme qui cherchait un nouveau souffle. D'autres juifs, eux, disciples de Jésus de Nazareth, abandonneront la stricte observance des lois religieuses et se créeront un destin universel en apportant leur vérité à tous les peuples de la terre avec le succès que l'on sait.
Merci beaucoup, Laurent. De quoi nous parlons demain ?
Demain, on reste au Moyen-Orient. Je vous parlerai de la Perse, devenue aujourd'hui la République islamique d'Iran.
À demain.
À demain.
7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal est à la une. Ces gros dégâts après les violents orages de la nuit dernière. Près de 23 000 impacts de foudre enregistrés. L'Oise est le département le plus touché. Suivent ensuite la Seine-et-Marne et Lyon. Dans l'Aisne, on apprend à l'instant qu'une femme est décédée suite à une coulée de boue. C'est ce qu'indique la préfecture. Marie-Naël Giraudot, ça va être encore agité aujourd'hui ?
Bah oui, c'est parce que les orages sont passés et qu'on a un temps agréable. Ce sera encore beaucoup, beaucoup de pluie aujourd'hui.
Et de 15h30 à 18h pour retrouver les grosses têtes et leur bonne humeur, mais aussi beaucoup de tendresse et de compassion, et tout cela concernant notre cher Johan Rieu.
Thierry, lui, veut défendre Johan Rieu. Il dit que c'est un scandale, toutes les moqueries dont fait l'objet Johan.
C'est vrai.
C'est bien ça ?
Ah, exactement, oui. Ça me fait mal. À
mais c'est de l'amusement.
Et le rigolade, c'est lui.
Vous avez même décidé de fonder le CSYR.
Le CIR, oui.
Le CIR, comité de soutien à Johan Rieu.
Exactement.
dont vous serez président à vie et pour l'instant le seul membre actif. Rien à ajouter, Thierry, à propos de Johan Rieu ?
Je pense que c'est vrai qu'il a l'air de s'amuser, mais je pense qu'il comprend pas exactement ce qui se passe autour de lui.
C'est agréable. Avec des amis comme vous, alors.
Ah oui, mon Dieu.
Le comité de défense me fait peur.
C'est ça. Ouais, les grosses têtes qu'on retrouve dès 15h30 et jusqu'à 18h, comme chaque jour, autour de Laurent Ruquier.
Il va très bien, notre Johan Rieu, hein, mais vous dire les choses telles qu'elles sont.
RTL. Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Chère Marina, revenons sur cette météo, de la pluie, du vent, des températures qui baissent. Formidable le mois de mai.
Ah, c'est formidable, hein. Franchement, c'est un temps encore bien agité. Alors, on a eu donc ce gros amas orageux qui est passé, qui est maintenant sur le sud de l'Angleterre. Mais derrière lui, il laisse un temps bien agité sur les 4/5 du pays, les 4/5 est, on va dire, avec donc des nuages, de la pluie, beaucoup de pluie en ce moment, de la Corse à la Méditerranée en remontant vers l'Occitanie, l'Auvergne, le Limousin, Rhône-Alpes, mais on a aussi des averses vers l'Aquitaine, le Grand Est. D'ailleurs, sur le Grand Est, il y a encore des impacts de foudre là en ce moment, notamment des Vosges à la Meuse. Rien à voir avec les gros paquets que l'on a eu hier, c'est assez localisé, mais il y en a encore, et il y en aura encore toute la journée sur le Grand Est ainsi que sur l'ouest de la Corse. Il y a un endroit quand même où c'est un petit peu plus calme, Bretagne, Pays de la Loire. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuages et quelques gouttes, mais il y a quand même beaucoup plus d'éclaircies.
C'est l'ouest du pays qui était en partie épargné.
Exactement. Et notamment cet après-midi, ça va aussi concerner le Poitou-Charentes et puis l'Aquitaine après les averses de ce matin. Donc sur cette façade atlantique, ça ira beaucoup mieux cet après-midi. Je ne vous ai pas parlé de la neige aussi en montagne.
Non, je vous en prie.
Sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif central. En revanche, plus de vigilance orange, que ce soit pour les crues, les orages, plus de vigilance orange. Un petit mot des températures.
Oui,
ça va vous faire plaisir.
ça baisse. On est en dessous des moyennes de saison, c'est reparti. 10 degrés seulement à Aurillac, 12 à Lyon, hier il faisait 19 à Lyon, 14 à Marseille, 14 à Paris, hier dans la capitale on avait quand même 21 degrés, donc ça baisse bien. 14 degrés aussi à Reims, il faisait 22 degrés hier, 15 degrés au Mans et à Rennes, 16 à Biarritz, à Nancy ou encore à Metz. Metz qui perd 10 degrés, faisait 26 hier à Metz, 16 donc cet après-midi, 18 à Lille et 19 à Strasbourg ou encore à Bastia.
Je reviens un tout petit peu en arrière, je vous ai bien compris, il va y avoir des régions aujourd'hui qui seront encore touchées par la foudre.
Exactement, notamment la région Grand Est, quelques impacts de foudre encore aujourd'hui, et puis sur l'ouest de la Corse, et ce toute la journée, mais ce ne sont pas les gros paquets que l'on a eus. Il y a beaucoup moins d'impacts de foudre, mais enfin il y en aura aussi.
Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette météo extrêmement perturbée. Merci d'écouter RTL, excellente journée à vous qui nous écoutez. Il est 7h30.
RTL Matin,
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Antoine Cavalleiro. Bonjour Antoine.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. On vient de l'apprendre là à l'instant, Valentin Boisset, la nuit orageuse a fait une victime.
Absolument, on vient tout juste de l'apprendre, une coulée de boue meurtrière sur la commune de Courmel. On est dans l'Aisne, une femme âgée de 57 ans donc est décédée. Plusieurs maisons ont été touchées par cette coulée de boue et un phénomène de ruissellement très localisé. Son mari a également été blessé dans la coulée de boue. On vient de l'apprendre tout juste par un communiqué de presse de la préfecture.
Une victime en Picardie. Les orages ont également violemment frappé en Ile-de-France, en Normandie, en Bourgogne. Des orages accompagnés parfois de grêlons modèle balle de ping-pong dans les vignes de Chablis. C'est l'hécatombe. On l'entendait à l'instant dans notre RTL événement. Certaines parcelles entièrement fauchées et dans les champs, dans les prés, ce n'est pas mieux. Luc Dupaquet élève des vaches à Vèvre. C'est en Côte d'Or.
Très impressionnant, la cour a blanchi, de l'eau, on a entendu des fracas sur les tôles, tout. Beaucoup de vent, impossible de sortir dehors, on s'est dépêché de mettre les véhicules à l'abri, tout, c'est à faire peur. On est déjà assez abattu là pour l'instant, donc les bêtes ont été affolées dans les bâtiments. C'est surtout ce qui est céréales d'hiver, surtout les orges d'hiver pour les bêtes. On a perdu une grosse partie.
À propos recueilli par Hermine Leclèche pour RTL, le monde agricole face à une nouvelle tempête, alors que les syndicats sont conviés ce matin à l'Élysée, Emmanuel Macron veut acter la fin de la crise agricole.
De son côté, Gabriel Attal reçoit depuis lundi les différents groupes politiques, le thème, la violence chez les jeunes.
Le Premier ministre s'était engagé à consulter tout le monde, il veut répondre à une série de faits divers dramatiques impliquant des mineurs, Chemseddine passé à tabac à Viry-Châtillon, Philippe Rouet de Coua à Grande-Synthe, le week-end dernier encore Mathis poignardé à Châteauroux, un thème dont souhaite s'emparer Jordan Bardella. Julien Fautras, le patron du Rassemblement National, se rend à Matignon aujourd'hui.
Oui, le sujet arrive spontanément dans les conversations avec les militants ou sympathisants RN. Nous parlions alors de toute autre chose avec Jocelyne.
Quand on voit tout ce qui se passe en France maintenant, tous ces jeunes qui se font tuer à coups de couteau, il faut réagir. Et actuellement, notre gouvernement ne réagit pas.
Henri, 18 ans, sous-entend même que le drame de Châteauroux l'a incité à se rendre au meeting de Jordan Bardella.
Ce qu'on a vu là, il y a récemment à Châteauroux avec le jeune de 15 ans, 16 ans, là, l'apprenti cuisinier, on se dit j'ai peur que ça soit des amis à moi, soit moi à qui ça pourrait arriver, donc pourquoi pas être là justement.
Alors, dans les discours de la tête de liste, il y a toujours une évocation. Hier, à Perpignan,
les macronistes ne voient pas non plus le lien entre l'explosion de l'insécurité et leur politique migratoire, de la même manière...
Jordan Bardella veut emmener le gouvernement sur la sécurité et sur l'immigration. Il a aujourd'hui une fenêtre. Peut-être qu'avec le Premier ministre, il évoquera un autre sujet, les modalités du débat, débat Bardella-Attal, débat qui doit les opposer avant les élections européennes.
Et avant de ferrailler avec le Premier ministre, Jordan Bardella sera ce dimanche sur RTL. Il participe à un grand jury exceptionnel, un débat spécial élections européennes. Pour la première fois, les 7 candidats principaux réunis dans une même pièce. Il y aura aussi donc Valérie Ayer pour la majorité ou encore Raphaël Glucksmann pour le PS. Ce sera en direct de midi à 14h sur RTL et Paris Première. L'émission diffusée ensuite à 18h sur LCP, la chaîne parlementaire. Raphaël Glucksmann, parlons-en, apostrophé, insulté hier lors du défilé du 1er mai à Saint-Étienne. Le candidat à Place Publique accuse la France insoumise. La gauche se déchire. Analyse et explication dans le journal de 8h.
RTL 7h33, c'est l'information de la nuit à l'étranger. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé des agents chimiques en Ukraine.
Karine Auton, on vous retrouve à New York pour RTL. Le département d'État américain a précisé ses accusations contre Moscou.
La Russie a déclaré ne plus posséder d'arsenal chimique militaire, mais les États-Unis n'y croient pas. Pour eux, Moscou violerait la convention sur l'interdiction des armes armes chimiques sur le front ukrainien. Ils sont sûrs que de la chloropicrine et des agents chimiques anti-émeutes ont été utilisés par l'armée russe contre les soldats de Kiev, certainement pour leur permettre de réaliser des avancées tactiques. Du coup, le gouvernement américain a pris de nouvelles sanctions contre des individus ou des entreprises qui participeraient à l'effort de guerre russe, et notamment ceux impliqués dans les programmes d'armes chimiques et biologiques.
Karine Auton, correspondante de RTL aux États-Unis.
Le football, le PSG n'a vraiment pas été brillant, mais peut encore croire à une finale en Ligue des Champions.
Les Parisiens battus 1-0 hier soir par le Borussia Dortmund en Allemagne. Ils n'y étaient pas, vous l'avez dit, ils ont manqué d'efficacité. Victoire obligatoire donc, mardi prochain au Parc des Princes. Autre sommet européen espéré par un club français, autre soirée foot à vivre sur RTL. L'OM vise la finale de la Ligue Europe, la C3. Les Marseillais reçoivent les Italiens, les Lombards de l'Atalanta Bergame. Ça se joue au Vélodrome, stade comble, Hugo Hamelin, avec des supporters venus de tout le pays.
Oui, ils sont descendus malgré la pluie, malgré des tickets dont le tarif a explosé au marché noir. Troisième demi-finale européenne en 7 ans pour l'Olympique de Marseille. Ça ne se rate sous aucun prétexte, selon Julien, venu de Touraine.
Il faut qu'ils nous fassent rêver. On a eu une saison très compliquée. C'est vraiment super, super important pour toute la ville, mais il y a des supporters de partout dans la France. Là, j'ai croisé des gens d'Avignon, j'ai croisé des gens de Lille, de Paris. Il y en a de partout. La ville est remplie et ça va être dingue. Ça va être complètement dingue.
Le président du club rêve encore plus grand, d'être à jamais le premier en France a décroché cette Ligue Europa, Pablo Longoria.
On est content. On sait comment c'est important pour nos supporters, pour tout le monde à l'intérieur du club. C'est donner l'opportunité potentiellement de gagner un titre. Ça, c'est quelque chose que ça fait des plaisirs.
Ici, pas de demi-mesure. Même le rappeur Jul, sponsor officiel de l'OM, a lui aussi posté son petit message sur Internet.
Pour toi, Marseille, qui ne dit jamais à moitié, bienvenue en demi.
Sur 7 demi-finales au cours de son histoire, l'Olympique de Marseille s'est qualifié 5 fois en finale.
Statistique honorable, rappelée ici par Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. RTL Foot, c'est de 20h à 23h. Le coup d'envoi fixé à 21h. Le match diffusé sur M6.
Et cher Antoine Cavallero, on vous retrouve à 8h30.
À 8h30.
À tout à l'heure. Rendez-vous est pris. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors nous entrons dans l'ère des franchises. Oui. Ça veut dire qu'on va payer plus. Et en fait, vous nous dites que c'est plutôt une bonne chose.
Mais c'est une idée de bon sens. Elle s'applique aujourd'hui, cette franchise, pour le compte formation. Idée de bon sens qui a un passé prestigieux. Vous allez le voir.
Vos explications dans un instant sur RTL. Il est 7h36.
Bonne journée RTL à tous. RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr. Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Carrefour. Avec votre carte Carrefour, il y a 30 euros offerts en bons d'achat des 100 euros d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10 euros, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL Matin.
Il est 7h37, l'Anglais Co avec vous François.
Bonjour Langlais. À tous.
Alors c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la franchise de 100 euros sur l'utilisation du compte personnel de formation.
Oui, ce compte, chacun en a un, oui. Il est abondé par des versements réguliers de l'employeur, 500 euros annuels maximum, avec un plafond de 5000 euros. Certains indépendants y ont droit aussi d'ailleurs. Il sert à financer des formations. Et voilà que le gouvernement prend un décret pour demander désormais aux candidats à la formation de payer lui-même 100 euros. Les chômeurs en sont dispensés, ainsi que ceux qui suivent une formation qui est préconisée par leur employeur.
Qu'est-ce qui a motivé cette décision ?
Les abus. Les abus et les défauts du système qui ont accompagné l'essor de la formule. En 2021, 2 millions de personnes ont utilisé ce fameux CPF.
Oui,
beaucoup, hein. Il s'agit donc de les responsabiliser, à juste titre, en leur demandant une contribution pour éviter le recours aux formations inutiles ou les abandons.
Les abus, de quoi s'agit-il exactement ?
Écoutez, seulement un tiers des formations suivies ont débouché sur des qualifications certifiées. Ah. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. Oui. C'est pas assez.
Non.
17% des formations n'ont aucun rapport avec les objectifs professionnels. C'est une étude du ministère du Travail, là. La même source nous apprend d'ailleurs que 11% des formations sont abandonnées en cours de route. Quant à l'obtention du permis de conduire, elle a déchaîné les vocations.
Bah oui.
Avec 14% des demandes, l'engouement pour les permis moto pourrait d'ailleurs coûter quelques 300 millions d'euros sur l'année, au point que le gouvernement prépare un décret pour en restreindre l'accès.
Bon, cette franchise, elle va rapporter combien ?
200 millions d'euros, si on se fie aux derniers chiffres de demandes de formation.
Mais est-ce qu'on est sûr que ça va faire le tri entre les formations utiles et les autres ? Vous voyez, la formation Paella, par exemple.
Écoutez, ça ne suffit pas, mais c'est quand même un élément important.
Oui.
La franchise, c'est un principe de base de l'assurance, parce qu'il responsabilise l'individu en le faisant participer au risque. Vous en payez une pour votre assurance, voiture ou habitation. Le tout gratuit n'a pas de valeur, et puis ça encourage le gaspillage. Vous constaterez d'ailleurs avec moi que c'est une idée à la mode. Franchise sur la boîte de médicaments, oui. Taxe lapin sur les rendez-vous médicaux non honorés et non allués, c'est un peu de la franchise. Mmh. Ce sont des mesures de bon sens qui, si elles étaient développées, pourraient aider à redresser les comptes mal en point de notre État-providence.
Alors, les critiques vous diraient que c'est une mesure antisociale.
Oui.
100 euros, c'est pas la même chose pour tout le monde.
Non, c'est vrai. Mais il faudrait leur répondre que, pour le CPF, les chômeurs en sont exemptés. Que la France possède déjà un système unique au monde, avec formation gratuite, santé quasi gratuite. Hein, notre reste à charge, ce qui est à payer par le patient, c'est l'un des plus faibles existants. Même le général de Gaulle, c'était pas un boucher thatchérien et néolibéral.
Non, hein. En effet, oui.
Même de Gaulle, quand il revient en 58, met en place une franchise pour la consommation de soins médicaux. Il s'agit alors de rétablir une France effondrée par les déficits. Figurez-vous, j'ai vérifié ça, oui. La franchise de l'époque, elle est de 3000 francs par semestre, des anciens francs.
Oui.
J'ai fait faire la conversion. C'est 61 euros d'aujourd'hui, oui. C'est-à-dire l'équivalent d'une franchise de 122 euros par an. C'est pas rien, hein. Alors, bien sûr, les plus pauvres en étaient préservés, mais vous voyez qu'on n'y allait pas avec le dos de la cuillère.
Tout cela est passionnant. Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve, bien entendu, sur le site et sur l'application RTL.
Dans un tout petit instant sur RTL, un livre événement, Les derniers jours de Johnny. Bonjour Anne-Sophie Yann.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste au Point et c'est vous qui signez cet ouvrage qui sort aujourd'hui chez Grasset. Livre préparé dans le plus grand secret. Pourquoi ?
Bah, c'est pas un livre officiel. Hein. Donc,
c'est pas un livre de groupie, pas un livre officiel.
Exactement. Donc c'est un livre qui est sincère, où j'ai vraiment essayé de me glisser dans la peau de Johnny lui-même. Avec, ça fait depuis 10 ans quand même que je travaille sur Johnny Hallyday. Je l'ai rencontré lui-même. Je connais, j'ai rencontré tout son entourage, quasiment professionnel, familial, amical. Donc j'avais assez de détails et d'informations et de sensations aussi pour permettre au lecteur de vivre les derniers jours de Johnny avec lui dans sa peau.
Et vous me disiez, c'est un personnage historique. On va en parler dans un instant. A tout de suite.
7h, 9h, RTL Matin. Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée ?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. Hein. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire.
Merveilleux.
Je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL.
Grand frais.
Allô chef, c'est Damien, votre seconde cuisine. Pour le service de ce midi, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un côte de Provence, parfait pour mon barbecue. Donc il y a mon beau-frère qui va vous donner un coup de main, la bonne bouffe, il connaît bien.
Pour la foire au vin de printemps chez Grand Frais, jusqu'au 18 mai, le côte de Provence AOP Lalamande est à 6,50€ la bouteille de 75 centilitres si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais.
Le meilleur marché.
Soit 13 euros le lot de 2, soit 8,67 euros le litre. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste horaire sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
RTL Matin.
Il est 7h42. Amandine, vous recevez ce matin notre consoeur journaliste Anne-Sophie Yann.
Anne-Sophie Yann, vous êtes journaliste au Point, je le rappelle, et vous publiez donc ce livre, Les derniers jours de Johnny, livre qui sort aujourd'hui. C'est Grasset, c'est un portrait à la fois très beau et émouvant de Johnny Hallyday, Johnny le combattant. Vous nous racontez les derniers jours, ou plutôt, j'ai envie de dire, les dernières fois. Derniers concerts, derniers enregistrements, derniers jours aussi à Los Angeles. Jamais ça n'est
voyeur. On ne tombe jamais dans quelque chose de malsain. Ce qui est très frappant tout au long de ce livre, c'est que jusqu'au bout, il a pensé qu'il allait s'en sortir.
Jusqu'au bout. Et c'est ça qui est absolument bouleversant, c'est que quand il apprend sa maladie, il est condamné, il n'a que quelques mois à vivre.
Enfin, au départ, on lui dit, vous avez 3 mois.
Oui, les médecins sont en plus assez catégoriques, ceux, en tout cas aux États-Unis, qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Et malgré tout, non seulement il ne se résigne pas, il va chercher d'autres avis médicaux en France, notamment, mais surtout, il continue à vivre, mais pas à vivre comme vous et moi, quand on est malade, en essayant de quand même se reposer, etc. Non, il part en tournée des zéniths en province, ce qui, même quand on n'est pas malade, est quand même quelque chose de hyper fatigant. Il enregistre un album, il dîne aux plus grandes tables avec ses copains. Enfin, il continue de vivre comme si tout était normal. Il roule dans ses bolides à toute vitesse. Et donc, non seulement il vit comme avant, mais presque plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'accroche à la vie, qui ne veut pas la lâcher jusqu'à ses dernières heures, jusqu'à ses dernières minutes. Sur son lit de mort, il ne veut rien lâcher. Et ça, c'est une expérience, c'est une claque, quoi. Je pense que pour nous tous, c'est une leçon de vie.
Une leçon de vie. On lui apprend ce cancer en septembre 2016. Les médecins, effectivement, lui disent, vous en avez pour 3 mois. Il va finalement vivre encore 15 mois jusqu'au 5 décembre 2017. 15 mois, vous le disiez, bien rempli. Avec cette tournée des vieilles canailles, avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Jusqu'au bout, tout le monde pense qu'il est incapable. Vous parlez de ce premier concert à Lille, où les musiciens n'ont qu'une trouille, c'est qu'il meurt ce soir-là sur scène.
Oui, ce qui est fascinant, et c'est ce que je raconte dans le livre, enfin, il y a des scènes, j'ai voulu vraiment le raconter avec beaucoup de détails, sans être exhaustif, mais juste avec comprendre ce que c'est que d'avoir un hôpital, parce que c'est ça, il se déplace avec quasiment un hôpital de ville en ville en France et en Belgique pour pouvoir se produire sur scène, faire des concerts quand même assez longs, assez exigeants, avec donc Dutronc et Mitchell, ses copains de toujours. C'est ça qui est très émouvant aussi, parce qu'ils ont commencé ensemble quand ils étaient adolescents, et là ils sont septuagénaires et ils sont là amis, complices, etc. sur scène, mais il y a un décalage énorme que le public n'a pas pu voir forcément, entre l'homme qui est là avec ses perfusions, qui subit des traitements lourds, douloureux, très fatigants, et il marche, il s'avance vers la scène, et à chaque pas, c'est comme si il lâchait des années derrière lui, il lâchait ses traitements, il lâchait la douleur.
Il revit sur scène.
Il redevient cet homme qui a une voix extraordinaire jusqu'à la fin. C'est pas une voix d'outre-tombe qu'il a, c'est pas Leonard Cohen, c'est pas Bob Dylan, non, c'est un Johnny avec une voix forte comme on n'a jamais entendu, qui met tout le monde au tapis, qui ravit son public, et c'est quasiment comme un ange, quoi.
Une voix de dingue jusqu'à la fin. On a sorti l'extrait du dernier concert à Carcassonne, le 5 juillet. Écoutez. Ça, c'est Jad, et puis l'amour, parce qu'il a fait monter ce soir-là ses deux filles sur scène. Ce sera son dernier concert, il le sait, c'est pour ça qu'il fait monter ses filles sur scène ou non ?
Alors c'est toute la question, et c'est celle qui traverse aussi le livre, c'est que jusqu'au bout, on est dans un jeu d'équilibre, où d'un côté, et dans une ambiguïté, il sait qu'il va mourir, enfin tout le monde lui dit, c'est-à-dire qu'au fond, lui, il doit le savoir, mais il ne l'accepte pas. Et donc, ce qui est très émouvant dans tous ces derniers instants, c'est que, comme beaucoup de récits, parfois, on connaît la fin, là, on sait qu'il va mourir. Ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui s'est passé avant, comment il a réagi, comment il a interagi avec sa famille, quelles sont ses dernières volontés, qui sont les personnes autour de lui jusqu'au bout. Et en effet, ses petites filles, cet amour qu'il a porté à la fin de sa vie, parce qu'il est devenu père une deuxième fois quand même assez âgé, et elle le porte jusqu'à la fin. Et c'est bouleversant en effet, sur cette chanson en plus qui parle d'amour, c'est un cri d'amour cette chanson, on l'entend d'ailleurs, c'est pas la voix d'un homme mourant, là on l'a entendu, mais qui choisit ces deux petites filles qui représentent la vie, l'avenir, the legacy presque, c'est bouleversant.
Mais vous pensez qu'il a fait semblant d'y croire ?
Instants. Alors, on est dans...
Parce que, par exemple, quand il ne veut pas que Laura et David viennent le voir alors qu'il est chez lui, on a beaucoup dit que c'était Laetitia qui les avait empêchés. Visiblement, ce que vous racontez là, c'est que c'était vraiment sa décision à lui et ça le mettait très en colère.
Oui, c'est-à-dire que je pense, moi, sincèrement, qu'il y a cru jusqu'au bout, parce que Johnny n'est pas un être comme tout le monde. Il a toujours eu un rapport très complexe avec la mort. C'est-à-dire que d'un côté, Il a toujours été terrifié par la mort, toujours. Il en parle, ça l'obsède. Quelque part, oui, dans son esprit, il sait que ça arrivera, mais il a quand même déjà vaincu un cancer, plusieurs cancers d'ailleurs. Il a failli être mort, il a été dans le coma quelques années plus tôt. On l'a déjà donné pour mort des dizaines de fois. Et puis, c'est un homme qui jouait quand même à la roulette russe, qui a eu plusieurs accidents de voiture, donc qui à la fois était terrifié par la mort, mais jouait avec et la cherchait, la draguait presque, mais dans une attitude qui se dit, mais en fait, c'est moi le maître, c'est moi qui la maîtrise, cette mort. Et dans son attitude, justement, dans ces derniers jours où il est mourant, mais il se dit, mais moi, je m'en fiche d'être mourant, je pars en tournée, j'enregistre mes albums.
Et il parle de tournée jusqu'au dernier jour.
Jusqu'au dernier jour. Il a des idées sur scène, il dit, voilà ce qu'on va faire pour la prochaine tournée, et puis le prochain disque, je veux travailler avec telle et telle personne, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est-à-dire qu'il a un tel sentiment de puissance, sans être un égomaniaque, etc. Hein, mais c'est que, pour lui, la mort, elle est dans ses mains, c'est lui qui choisit quelle est sa dernière heure. Sauf que, non, à un moment ou un autre, c'est un jeu de pouvoir et une lutte pendant toutes ces pages entre la mort et lui. Et qui va gagner à la fin ?
Je parlais de Laetitia, vous ne l'épargnez pas dans ce livre. Elle vous a donné son accord pour cet ouvrage ?
Alors, personne ne m'a donné aucun accord pour cet ouvrage. C'est vraiment un livre indépendant, justement, parce que dès qu'on touche à Johnny, tout d'un coup, ça, c'est vrai que c'est un personnage qui est tellement énorme. C'est la plus grande star française, je pense, toute catégorie. Personne n'a atteint ce niveau de notoriété, je pense, ni en politique, ni et surtout, personne ne rassemble à ce point. Et du coup, il y a une volonté quand même de contrôler une narration, etc. Ça touche.
Vous saviez que si vous le disiez, vous auriez été empêché d'une façon ou d'une autre.
Mais ça, c'est normal. Mais par d'ailleurs n'importe qui. Je pense que n'importe qui réagirait comme ça, de raconter son histoire. Et moi, je voulais garder une liberté totale, sans être cruelle. Hein. J'ai vraiment. J'ai aucun sentiment de cruauté envers.
C'est aucun pas de règlement de compte. Encore une fois, il n'y a pas
du tout. C'est pas
ce sentiment-là. À propos de Laetitia, vous racontez qu'elle l'agaçait terriblement autant qu'il ne pouvait se passer d'elle. Et les derniers mots de Johnny sont d'ailleurs pour elle. Hein. C'est ce que vous racontez à la fin du livre, ce 5 décembre. Soir, il est allongé sur son lit, seul avec Dada, son coach, et Karl, son garde du corps chauffeur. Il attrape la croix en or blanc et diamant qu'il a toujours autour du cou. Il la tend à Dada et lui dit « Tiens, tu la donneras à ma femme. Je sens que c'est la fin. C'est bon. » Il se tourne ensuite vers Karl, le chauffeur, et lui dit « Promets-moi de rester auprès de ma femme et de mes enfants. » Ces derniers mots, ils sont pour Laetitia et pour ses filles.
Oui, ça a été une obsession jusqu'à la fin de sa vie, hein, protéger sa femme et ses filles, parce que l'autre personnage de ce livre, c'est évidemment sa femme. C'est aussi une grande histoire d'amour. C'est une histoire, de maladie, de mort, de musique, d'amitié, mais surtout d'amour. Parce que, derrière, souvent d'ailleurs, tout homme de cette stature, il y a une femme. Mais là, non seulement il y a une femme, mais il y a une relation de couple très complexe, beaucoup plus complexe qu'on a voulu l'entendre. C'est pas une question de. Il n'y a pas une manipulation, etc., comme on a pu le dire. Mais il y a une relation de pouvoir qui a été renversée un moment. Et cette histoire d'amour, je pense qu'elle peut toucher aussi tout le monde, parce que tout le monde a déjà été dans cette situation. D'aimer à la folie quelqu'un, de se donner entièrement, avec soumission, dévotion. C'est ce qu'elle a fait, quand même, pendant des années. C'est absolument, de manière admirable. Elle a supporté beaucoup, parce qu'il a été très, très dur, pendant plus de 20 ans, quand même. Donc, quand on dit, oui, c'est une sorcière manipulatrice, etc., attendez, vivez avec un homme comme Johnny pendant 20 ans, on va en reparler. Et donc, c'est aussi l'histoire d'un couple avec une grande différence d'âge et d'une fille, d'une petite fille qui devient femme.
Je reviens sur ces derniers instants. Karl, le chauffeur ne va pas lâcher la main de son patron pendant 4 jours jusqu'au funérarium. Il n'oublie pas, écrivez-vous, que Johnny ne supportait pas la solitude. Il supportait pas la solitude et pourtant il était profondément seul, non ? Il était toujours très entouré, mais on sent cette part de solitude, d'extrême solitude même.
C'est là où c'est un personnage absolument fascinant et bourré de contradictions. C'est que à la fois, en effet, il est seul tout le temps dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, mais il fuit en permanence cette solitude, comme vous le disiez, c'est-à-dire depuis sa plus tendre enfance en réalité, parce que derrière Johnny, derrière Johnny même, le Johnny de 74 ans, avec la peau burinée, qui a tout vécu, qui a eu toutes les femmes, tous les succès, qui a chanté devant des millions de personnes, enfin, qui a vraiment cassé tous les records, etc. Bah, il y a un enfant, un nouveau-né, fragile, qui hurle nu sur le parquet d'un appartement où son père vient de l'abandonner, et en partant avec tous les meubles quand même, et tout l'argent qu'il ne verra, il le reverra, mais ce père n'a jamais voulu de lui. Il a été d'une dureté atroce, et puis sa mère l'a abandonné. Enfin, c'est un être, un petit garçon traumatisé qui n'a jamais réparé ses souffrances. Il n'a pas fait de psychanalyse, Johnny Hallyday, mais c'est là, c'est dans ses blessures qui, d'abord, que beaucoup de choses s'expliquent. Et dans le livre, je reviens évidemment, il y a des clés pour comprendre qui il est, pourquoi il a fait les choix à la fin de sa vie qu'il a fait. Il y a beaucoup d'éléments d'explication. Je ne peux pas tous les lister ici, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cet être fragile qui a puisé donc dans ses blessures le chanteur exceptionnel qui est venu.
Chanteur exceptionnel qu'il est resté jusqu'au bout. Ça, c'est Mon pays, c'est l'amour. C'est le dernier titre qu'il a enregistré. 3 prises seulement, alors qu'il est franchement à bout. Hein. Il décédera 5 semaines plus tard. Un grand merci, Anne-Sophie Yann. Je rappelle donc le titre de ce livre, Les derniers jours de Johnny. C'est publié chez Grasset et ça sort aujourd'hui.
Qui s'accroche à la vie et qui draguait la mort, venez-vous nous dire, ce film. Vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, dans un instant.
RTL Matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment, chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'1,5 litre de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petite ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Philippe, Anne-Sophie, Yann qui publie un livre très émouvant, Les derniers jours de Johnny. Et restez pour votre chronique.
Ah, Johnny, tu nous manques. Vous le savez, Yves, je suis un barman de l'humour. Alors là, en ingrédient, on a quoi ? On a un cancer en phase terminale et l'artiste préféré des Français. T'as beau ajouter une grande paille et un petit parasol rigolo, je suis pas sûr de vous faire un cocktail réussi ce matin. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
On va parler de Johnny, qui a eu l'inélégance de niquer le décès de Jean d'Ormesson en mourant le même jour. On adorait les deux.
Oui.
Mais il faut reconnaître que le fan de Jean Do est aujourd'hui moins visuellement identifiable, pas de tatouage tête de lion, pas de chemise en jean avec une tête d'Indien brodée, peu de Santiago vache à franges que vous affectionnez depuis que vous faites de la danse country, et très peu de coupe mulet. On se rappelle tous de l'endroit où qu'on était quand on a appris la mort de Johnny. C'est moins vrai pour celle de Dick Rivers. Vous étiez où pour la mort
de... Oh non, c'est horrible.
Marcel Amon, pareil, je ne me rappelle pas. Yves Duteil, bon, non, pas encore mort.
Non, il n'est pas mort.
Yves... Eh ben voilà, c'était ça le piège.
Il
vivra jusqu'à 120 ans.
Le petit pont de bois, ben oui.
Ben oui, évidemment. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de Johnny sans parler des grands auteurs et en particulier de Camus. J'aime à citer Camus qui a eu cette phrase magnifique, la gorge nouée par l'émotion. C'est la mort dans l'âme que je viens vous dire que le concert de jeudi n'aura pas lieu. Et c'est beau, l'émotion pure et brute d'un producteur qui voit partir une billetterie de 40 000 places à 65€.
Oui.
Je parlais de Jean-Claude Camus. Pas,
oui, c'est pas Albert, on est bien d'accord.
Mon frère Albert.
C'est bon de le préciser.
Jean-Claude Camus qui avait ajouté « connard de Louis Baudin », il avait dit qu'il ferait beau temps, voilà. Anne-Sophie, les extraits que j'ai lus sont très forts, très émouvants, avec la grand T, et j'ai envie d'en parler dans la petite papeterie. Ah, voilà. Alors, Anne-Sophie, bonjour. On a adoré. On a adoré vraiment ce livre. Les derniers jours de Johnny, c'est l'occasion de parler d'autres biographies de chanteurs français. Si vous avez aimé Le nom de la rose, Umberto Eco, précipitez-vous sur Au nom de la cirrhose, cet ouvrage sur Serge Gainsbourg. Mais aussi, Les artistes se cachent pour vomir. Ça, c'est très joli. Et J'irai gerber sur vos pompes. Un troisième ouvrage. Deux bios sur Renaud.
Oui.
Le parfum, c'est bon aussi quand il n'y a plus de pastis, qu'on a adoré. Et bien évidemment, c'est cet hommage à Stendhal. Oui. Le rouge et la poire, qu'on a beaucoup aimé. Tiens, un recueil aussi de textes et de chansons. Gérard Depardieu chante Barbara et tripote la maquilleuse. Ça, c'est à pas mettre entre toutes les mains. Et enfin, Mort à crédit, livre enquête sur les dettes que Johnny a laissées à sa famille.
Bon, les Français ont aimé et aiment encore Johnny de façon tout à fait inconditionnelle.
On a tout pardonné à Johnny, la coke, l'alcool, le soutien à Nicolas Sarkozy. Moins Faudel. Oui. Alors, c'est peut-être une histoire de répertoire aussi. Il y avait chez Johnny une forme d'intelligence animale et d'humour surréaliste. Quant au 20h, bon, il parle à Claire Chazal de son footballeur préféré.
Je connais Zazie, je l'adore comme joueur.
On s'en lasse pas. Non. Et puis, bon, quand il rentre du Dakar, c'est le philosophe du temps qui passe qu'il parle.
Tu le ressens si on n'avait pas perdu 1h15 ? On serait là depuis 1h15.
Ah oui, j'ai l'impression d'être Cyprien Sini, j'envoie des sons, c'est cool. C'est vraiment un boulot de feignant. Ouais. Alors, il y a eu un autre moment suspendu, je ne sais pas si vous avez vu une fulgurance. Claire Chazal l'interview après son coma. Elle lui dit très logiquement, pendant votre coma, tous les Français étaient inquiets, demandaient de vos nouvelles. Ça vous fait quoi de savoir que tout un pays vous aime et tremble pour vous? Et là, Johnny de répondre, moi, je ne me suis pas du tout rendu compte vu que j'étais dans le coma. Et c'est vrai que ce n'est pas faux quand